l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Oui, coucou.
Coucou, Malo.
Bonsoir. Toujours un plaisir d'être sur les ondes de Radio Diwa.
Toujours, toujours, toujours. Salut. Eh ben, écoute, aujourd'hui.
Comment t'es inspirée ce soir, Carotte?
Ah ben, je suis inspirée nazie à fond là.
Super.
D'ailleurs, j'allais dire.
Sors de ce studio.
Sors de ce corps. Non, j'allais dire salut petit nazi, comme il faisait l'autre pour Top 50. Mais non, en fait, aujourd'hui, ben, j'avais pas trop d'idées. J'étais un peu comme tous ces humoristes. Très ben dans le down en fait hein. Donc moi je suis pas assez célèbre pour être blacklistée comme Blanche Gardin et Dieudo depuis déjà un moment, mais disons que ouais, en ce moment j'étais un peu dans le creux de la vague. Alors je me suis dit comment animer mes petits auditeurs, comment les faire rêver et comment surtout les aider à franchir ce cap difficile hein.
Toujours avec de l'art.
Oui, toujours avec de l'art. Donc, en fait, j'ai devant moi le petit livre de Théophile Gautier qui s'appelle « Le club des hachichins ». Et il est suivi d'un petit texte qui s'appelle « La pipe d'opium ». Mais je vais donc juste vous lire, et ça va faire, ça va faire la farce, l'introduction qui est donc de Robert Chenet et qui va vous refaire replonger dans les volutes de fumée du Paris de la fin du 19e siècle, et ça va être un vrai délice. Au bord de l'île Saint-Louis, à Paris, au 17 quai d'Anjou, le promeneur peut admirer la noble mais sobre façade d'un hôtel particulier du 17e siècle, notamment remarquable parce qu'il a un superbe balcon en fer forgé. Aujourd'hui, propriété de la ville de Paris, qui ne le laisse visiter que très parcimonieusement au bon peuple, pour en réserver les somptueux salons à des réceptions destinées à quelques privilégiés. Il fut donc construit par le célèbre architecte Charles Levaux. Donc pour les spécialistes, c'est un de ceux qui firent le château de Versailles. Et donc il a été fabriqué pour un très curieux personnage qui s'appelle Charles Gruin et dont la fortune venait d'un cabaret qui s'appelait la Pomme de Pin et qui était le rendez-vous de l'élite intellectuelle de ce temps-là. Ses clients s'appelaient Racine, Boileau, Lully, La Fontaine ou Molière. Donc quelques spéculations l'enrichissent suffisamment pour être capable de s'offrir à un tel logis, mais Colbert ne lui laisse guère le temps d'en profiter et il le condamne à la prison pour « cocution ». L'hôtel est ensuite vendu au comte de Lauzun, que Louis XIV fit enfermer 10 ans pour avoir osé prétendre épouser la cousine du roi Soleil, ce qu'il parvint finalement à faire. Donc ben, lui non plus, il resta pas très longtemps quai d'Anjou, et il fut remplacé par un petit neveu de Richelieu, qui n'y dura guère plus non plus, s'étant rapidement ruiné en donnant bien trop de fêtes bien trop fastueuses. Donc, on aurait pu croire ce bâtiment marqué par le destin. Mais le propriétaire suivant arriva à le conserver durant près de 60 ans. Deux autres lui succédèrent jusqu'à ce qu'en 1842, l'hôtel, qui était quand même pas mal passablement dégradé, et dit donc hôtel de Pimodan, du nom de l'occupant précédent, fut acquis par un certain baron de Pichon, qui était surtout connu comme bibliophile. Donc ça allait parce qu'il y a une bibliothèque géante. Le nouveau propriétaire décida de rentabiliser son investissement en y accueillant des locataires. Donc certains allaient devenir célèbres, tels Théophile Gautier ou Charles Baudelaire, le premier n'y habitant d'ailleurs pas, son logement lui servant simplement de refuge pour travailler tranquille à l'abri de sa famille. D'autres le sont moins de nos jours, comme par exemple l'occupant du premier étage, donc c'est l'étage qui est dit « noble », donc c'est Ferdinand Boissard de Bois-Denier, donc lui ses dates c'est 1813-1866, qui était donc Malo, artiste peintre de son état, quoique semblant quand même plus passionné de musique que de peinture. Bien que condisciple de Delacroix dans l'atelier du grand artiste officiel de l'époque, Antoine Gros, ces tableaux sont suffisamment maintenant totalement oubliés, donc à tort ou à raison. On peut néanmoins quand même les voir au musée de Rouen. Et il y en a un très beau qui s'appelle « Épisode de la retraite de Russie ». Et si son nom est parvenu jusqu'à nous, bah, en fait, c'est bien pour tout autre motif qui a que fort peu de rapport avec l'histoire de l'art, puisqu'il s'agit de drogue. Bien que la drogue ait beaucoup à voir avec l'histoire de l'art, évidemment. Donc en effet, à partir de la fin de l'année 1845, Boissard organise, dans son merveilleux domicile de l'hôtel de Pimodan, des dégustations de cannabis, réservées à un groupe de privilégiés connus, donc bien connus d'ailleurs, sous le nom de Club des Hachichines. Alors en cette première moitié du 19e siècle, le hachiche, qui change d'orthographe hein, selon les époques, pas plus que n'importe quelle autre drogue dite dure ou douce, ne fait l'objet d'aucune interdiction. Alors, surtout cultivée au Moyen-Orient, notamment en Égypte et en Syrie, et ainsi qu'aux Indes, et d'ailleurs c'est la provenance la plus réputée pour sa qualité, il se consomme de diverses manières. Alors, comme aujourd'hui, bien sûr, on peut le fumer, mélanger à du tabac dans une pipe, la cigarette n'existant pas encore, le joint, bien sûr, reste un inconnu. Il est à inventer. Mais les vrais amateurs ont tendance à considérer que les effets en sont un peu trop faibles. Donc, il y a une méthode beaucoup plus efficace qui consiste à absorber la drogue sous forme liquide.
C'est l'huile, ça.
Alors, liquide, là, on parle de thé. Donc, si le thé au hashish reste relativement modéré, donc le vin ou la bière, sont nettement plus virulents. Alors, lorsqu'on ne le fume pas et qu'on ne le boit pas, on peut le consommer sous forme solide, notamment en dragée parfumée au chocolat, afin d'en améliorer le goût, unanimement jugé assez peu appétissant quand il n'est pas mélangé avec du sucre, de la cannelle ou du chocolat. Cependant, la façon alors la plus en vogue de manger du cannabis, comme d'ailleurs d'en absorber de manière générale, s'appelle le dawamesk. Terme d'origine arabe désignant une préparation venue du Moyen-Orient. Alors, la recette, je te la donne, elle en est la suivante. On fait longuement bouillir, dans du beurre allongé d'eau, des fleurs fraîches de chanvre indien, jusqu'à obtenir une bouillie bien épaisse que l'on passe à travers un linge très fin pour en éliminer tous les débris végétaux, puis que l'on chauffe jusqu'à évaporation complète du liquide restant. Le résultat obtenu est une pâte verdâtre qui sent plutôt mauvais et au goût encore bien pire. Aussi, personne ne se hasarde-t-il à consommer celle-ci telle qu'elle, mais on s'en sert pour confectionner une sorte de confiture qui est largement parfumée à la vanille, à la pistache ou à la cannelle, mais également, et exotisme oblige, à la rose ou bien au jasmin. Afin de corser le tout, les plus acharnés y ajoutent parfois un petit peu d'opium. Le dawamesk se prend par dose. Servi dans une petite cuillère allant de 15 à 30 grammes selon la quantité du produit et la puissance des effets recherchés. Au lieu de l'avaler directement, accompagné ou non de biscuits, d'aucuns préfèrent dilber leur confiture dans une tasse de café brûlant afin d'en accroître la force. Toutefois, les avis divergent sur l'efficacité d'un tel mélange. Si les uns considèrent que le principe actif du cannabis s'en trouve exacerbé, d'autres sont persuadés au contraire que cela l'atténue. En tout état de cause, ce ne sont que des considérations empiriques, car ce principe actif, le THC, tétrahydrocannabinol, n'est pas encore connu, n'ayant été isolé qu'à la fin de ce siècle. Pour l'Occident en général, et la France en particulier, le haschich est une découverte toute récente à cette époque. Les quelques amateurs, qui appartiennent aux couches sociales privilégiées, ne fût-ce qu'en raison du coût prohibitif de cette drogue, donc une dose de dawamesk représente de 3 à 5 journées de travail d'un ouvrier parisien non qualifié. Alors, ils y recherchent des sensations fortes, comparables à celles produites par l'opium, substance connue depuis beaucoup plus longtemps, à cause de ses applications thérapeutiques et alors largement plus en vogue dans ces mêmes milieux. Aussi, ceux qui choisissent le haschich préfèrent-ils le plus souvent les préparations les plus agressives, les plus capables de produire de véritables hallucinations, ce qui est incontestablement le cas du dawamesk. Ce sont de telles expériences qui fascinent les participants des réunions du club des haschichines. Et c'est pourquoi seule la fameuse confiture verte, qu'ils appellent entre eux la pâture, y a sa place. Certains la prennent à des doses supérieures aux 30 grammes généralement considérées comme un gros maximum. Le résultat est un trip particulièrement mouvementé et désigné sous le terme de fantasia. Le nom de ces participants ont eux-mêmes choisi pour parler de leur groupe vient de l'arabe achchi, signifiant buveur de haschich, mais se réfère surtout donc à la célèbre secte ismaélienne qui terrorisa le Proche-Orient au Moyen-Âge pendant près de 3 siècles, au point de nous avoir donné notre mot « assassin ». Dirigée par un chef mystérieux, retranché dans une forteresse imprenable des monts de l'Iran du Nord et surnommé pour cette raison « le vieux de la montagne », les membres de la secte lui devaient une obéissance absolue. Plus fondée sur un fanatisme religieux exacerbé que sur la consommation du haschich à laquelle ils doivent leur nom. Les assassins sévirent de 1090 à 1256 avec comme spécialité le meurtre politique, toujours pratiqué de manière spectaculaire, au poignard et en public, ce qui en fait des précurseurs du terrorisme moderne. Leurs lointains descendants parisiens sont heureusement beaucoup plus pacifiques. Mais ils se sentent comme appartenant eux aussi à une sorte de secte, une élite possédant suffisamment de sensibilité et d'intelligence pour être capable de pleinement apprécier les vertus hallucinogènes de leur drogue favorite. C'est pourquoi, loin de tout prosélytisme, ils se recrutent par cooptation, sans toutefois éprouver le besoin de se cacher le moins du monde. Né en 1811, Théophile Gautier, que j'adore, est alors une figure déjà bien connue du Paris littéraire, résolument engagé dans le mouvement romantique ou mélancolique, dont il est un des chefs de file. Si une première plaquette de poésie est passée totalement inaperçue, ayant eu la malchance d'avoir été publiée le jour même où éclatait la Révolution de 1830, ses ouvrages suivants ont eu plus de succès. Albertus, Les Jeunes Frances ou Mademoiselle Maupin sont parmi les titres qui ont imposé son nom sans toutefois lui permettre de gagner convenablement sa vie, d'autant qu'il a une famille à nourrir, le pauvre. Aussi, depuis une dizaine d'années, s'est-il résolu à faire du journalisme, essentiellement comme chroniqueur dramatique, mais pas exclusivement. C'est d'ailleurs en tant que journaliste que Gautier manifeste pour la première fois, du moins par écrit, son intérêt pour le cannabis. En effet, dans le quotidien La Presse, du 10 juillet 1843, il raconte une expérience personnelle de consommation de cette drogue, décrivant avec force détails et dans le style brillant qui a toujours été le sien, les effets qu'il a ressentis. De toute évidence, il a beaucoup apprécié cette expérience qui n'était sans doute pas la première et assurément pas la dernière. 2 ans plus tard, cet article est repris quasiment intégralement en guise d'introduction à un ouvrage intitulé « Du haschich et de l'annihilation mentale » de Jim Moreau de Tours. Donc ce médecin aliéniste exerçant à l'hôpital de Bicêtre, l'un des grands établissements des environs de Paris, accueille les malades mentaux de la capitale et il s'intéresse à la drogue depuis 1837. En effet, le haschich constitue pour lui, grâce à l'action que cette substance exerce sur les facultés morales au moyen puissant et unique d'exploration en matière de pathologie mentale, selon les termes de l'une de ses communications à l'Académie des sciences, précisant que, par elle, on devrait pouvoir remonter à la source cachée de ces désordres si nombreux, si étranges, que l'on désigne sous le nom de folie. Pour conduire ses recherches, non seulement Moreau de Tours absorbe lui-même régulièrement du dawamesque, afin d'en ressentir personnellement les effets, mais aussi il demande à certains de ses amis de faire de même au cours de séances de dégustation organisées chez lui. Parmi ses cobayes se trouve Gautier, qui en sa qualité de poète est un observateur très précieux, capable de décrire très précisément son expérience de la drogue. Les séances au domicile du docteur, amateur de haschich, préfigurent les réunions n'ayant plus aucune prétention scientifique qui se passe à l'hôtel de Pimodon. Ayant participé aux premières, rien d'étonnant donc à ce que Théophile Gautier fréquente les secondes, se passant une fois par mois chez son voisin et ami Boissard. Certes, il peut y croiser des inconnus introduits par tel ou tel habitué, mais la plupart des membres du club des haschichines appartiennent au tout Paris des arts et des lettres. C'est ainsi qu'outre l'inévitable Moreau de Tours et son confrère Aubert Roche, se retrouvent plusieurs peintres, parmi lesquels Tony Janot, Ernest Meissonnier ou Eugène Delacroix, et des caricaturistes comme Henri Monnier et Honoré Daumier. Du côté des lettres, on aura Balzac et Baudelaire qui sont les plus fameux aux yeux de la postérité, mais l'un comme l'autre viennent en simple observateur, sans goûter à la confiture verte, du moins pas dans ce cadre. Bon, c'est ce qu'il écrit, mais à mon avis, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas de deux romanciers oubliés de nos jours, c'est bien d'en parler, Alphonse Karr et Alphonse Esquiros. Comme le Gérard de Nerval, l'ami intime, Gautier et lui se sont connus sur les bancs du lycée Charlemagne. Et il va publier 2 ans plus tard un récit, Histoire du calife Hakem, dans lequel se retrouve le souvenir des fantasias de l'hôtel Pimodan. Oui, moi je vous invite vraiment à lire tout Gérard de Nerval, hein, c'est vraiment un pur plaisir et puis c'est un voyage dans le temps direct, quoi. Au bout d'environ 1 an, Théophile Gautier cesse soudain de se rendre aux soirées du club des haschichines, renonçant au dawamesque définitivement. S'en expliquant, bien des années plus tard, à la fin de sa vie, il précise alors que sa décision ne fut pas provoquée par la peur des conséquences pour sa santé de l'usage de ce qu'il qualifie toujours de « drogue enivrante », mais pour une raison plus intellectuelle. Le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. Néanmoins, rien ne prouve qu'il ait complètement abandonné la consommation du haschich sous des formes aux effets moins hallucinogènes. Quoi qu'il en soit, cela ne semble pas empêcher l'écrivain de continuer à prendre une autre drogue, l'opium. sans que l'on puisse savoir exactement quand et dans quelles circonstances il a découvert ce dernier. C'est sûr, il y en avait partout. Il écrivit sur ce sujet plusieurs années avant de le faire sur le haschich. En effet, la pipe d'opium a paru 5 ans avant le haschich et 8 ans avant le club des haschichines. Ce qui pourrait signifier qu'il connut l'un bien antérieurement à l'autre. Cela n'aurait rien d'étonnant compte tenu du fait que le cannabis est alors bien moins en vogue. Si l'opium est utilisé depuis des millénaires pour son pouvoir analgésique et sédatif, son usage extramédical ne remonte qu'aux premières années du 19e siècle en Angleterre. D'abord limité à la haute société, bien sûr, il ne tarde pas à se répandre jusque dans les classes populaires. On le consomme de différentes manières, en le fumant bien sûr, mais également sous forme de pilules ou plus fréquemment d'une boisson alcoolisée appelée le laudanum. Donc il faut savoir, mais on en avait déjà parlé, que la pauvreté est énorme. Donc les classes dirigeantes comme aujourd'hui sont vraiment très petites et les classes populaires sont ultra nombreuses. Et l'opium, il agit vraiment comme un antalgique. C'est-à-dire tu peux bosser 17 heures par jour, transporter, aller à la mine, enfin transporter du linge, des charges et tout ça. Ton corps ne souffre plus. Donc chaque époque a aussi eu ses drogues pour les pauvres, pour leur permettre de travailler, d'être productifs et de ne pas avoir mal. Après la chute de Napoléon, la France est saisie comme une brusque frénésie d'anglomanie. Et comme bien d'autres mots britanniques, celle de l'opium traverse la Manche pour être rapidement adoptée dans notre pays. Les artistes et surtout les écrivains, en particulier ceux de l'école romantique, ne sont pas les derniers à s'y intéresser, et pas uniquement de manière théorique pour certains. En 1821, l'écrivain anglais Thomas de Quincey retrace sa longue, c'est-à-dire plus de 15 ans, et finalement assez douloureuse expérience de la drogue dans « Confession d'un mangeur d'opium anglais ». En 1828, Alfred de Musset en fait une adaptation très libre sous le titre « Un anglais mangeur d'opium ». Le livre devant attendre 1860 et Baudelaire pour être réellement, quoique partiellement traduit, dans les paradis artificiels. Dans la même veine, Balzac, à qui il arrivait de prendre du laudanum, publie 2 ans plus tard une nouvelle intitulée « L'opium ». Sous le pseudonyme du comte Alex de B, il y décrit les effets de la drogue dans des termes très lyriques. Le romancier reprend le sujet de 1839 dans Massimilia Doni, et cette fois sous son véritable nom. Consommateur lui-même, Théophile Gautier ne peut manquer de livrer son propre témoignage, afin de bien marquer que, comme pour le club des haschichines, c'est une expérience vécue personnellement. Il adopte dans la pipe d'opium le « je », grâce auquel l'auteur, refusant le masque commode de la fiction, se confond avec le narrateur. La pipe d'opium a été publiée dans le journal La Presse du 27 septembre 1838 et le club des haschichines dans la Revue des Deux Mondes du 1er février 1846. Les deux récits furent repris dans le recueil « Romans et contes » édité par Charpentier en 1863. Voilà, merci Robert Chenet. C'était donc la petite introduction avant le club des haschichines, qui est donc un tout petit, c'est des tout petits livres, hein, donc Gérard de Nerval, Théophile Gautier, tout ça. Il faut les prendre, il faut les lire, parce que ben voilà, c'est comme des machines à remonter dans le temps. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est génial parce que ça nous fait aussi comme une longue généalogie. Et voilà, ça nous permet de se rattacher à des grands poètes, des grands penseurs, des grands artistes. Ouais.
Bah justement, moi, ça m'a fait vraiment du bien aussi de retrouver toutes ces figures artistiques, grands poètes, grands penseurs. J'adore toujours quand on parle de ces artistes-là, de toute façon, mais parce que j'adore aussi l'écriture, tu le sais, et puis l'art, de toute façon. Du coup, je ne savais pas trop ce que tu voulais aussi proposer aux auditeurs en parlant de ça. Moi, j'ai vu... Enfin, il y a plein de choses qui ont résonné en moi. Et déjà, ce lien de toute époque entre les artistes et la drogue, c'est quand même vraiment... je trouve que, tu vois, il y a un truc... On dit beaucoup que les artistes, généralement, ils ont besoin d'être dans d'autres états aussi pour créer ou se redécouvrir en tant qu'artiste. Et il y a aussi ce parallèle où je me suis déjà posé cette question quand tu y dis que un véritable littéraire, c'est quelqu'un qui n'a besoin que de ses rêves et que du coup, les effets que la drogue peut emmener, ça... Enfin, on le sait tous, mais du coup, ça...
Ouais, ben c'est surtout qu'on rêve plus trop.
Voilà,
et donc c'est ça. Parle et de la vertu du rêve naturel. Aussi, ouais. Mais bon, après, il est vieux.
Moi, mes premiers écrits étaient partis sur mes rêves naturels, tu vois. Et du coup, maintenant, tu vois, il faut vraiment plus que je puisse dans mon imagination profonde et les mots que je connais et les messages que j'ai envie de transmettre que juste la pureté des rêves qui, en soi, en disent déjà beaucoup sur notre être si on prend le temps de les écouter, de les interpréter,
de les traduire, bien sûr. Oui, ben après c'est tout, enfin c'est un rapport de soi vis-à-vis du monde. Je veux dire, la drogue, c'est un filtre entre soi et le monde. C'est comme si on mettait un costume ou une tête de Mickey. non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une façon d'avoir un mini décalage. Donc, tant qu'on peut recevoir le monde, eh ben oui, bien sûr, le soir, on rêve et on range son cerveau et on se souvient des bons trucs de la journée. Mais si d'un coup, tu as un blocage avec le monde, si d'un coup, le monde, la vie, la société, la ville, ton travail, ta famille, c'est pas ça que tu as envie de revivre la nuit et de ranger ça dans ton cerveau le soir, hein, tu vois. Donc, voilà, moi, je pense que, après, pour les arts, même dans la musique, bon, on sait que chaque genre musical a sa drogue. Les jazzman prenaient de l'héroïne, les mecs boivent.
Les artistes prennent de la drogue. Bon, après, quoi,
mais
voilà.
ils ont aussi, comment dire, ils partagent souvent le goût pour le même genre de drogue qui leur procure le même type d'inspiration ou d'énergie ou de lâcher prise ou de plus avoir de trac ou de se sentir capable de et pas de se. Parce que quand tu es amené à jouer devant un public, souvent tu as l'impression que tu mérites pas cette mise en avant. Donc tu as toujours un problème de distanciation entre ce qu'on attend de toi et ce que tu es capable de donner, d'où le track, etc. Puis après, quand tu es lancé dans ta partition ou que tu es sur scène et que tu joues ton truc, hop, ça y est, tu oublies parce que ça y est, tu es dans l'autre. Mais et après, pour la création, je veux dire, le simple même fait de créer, c'est-à-dire d'être dans la sphère de la création, qui n'est pas du tout pareil que d'être dans la sphère d'un travail répétitif ou dans la sphère même d'une manifestation ou d'une action sociale. Tu vois, c'est quelque part son combat à soi dans le monde dans lequel on vit. Après, quand tu as la chance d'appartenir à un groupe artistique, donc là, ça prend plus la forme d'un manifeste, d'une manifestation, d'un courant artistique où on est plusieurs à gueuler le même mal-être, à gueuler la même chose et à vouloir les mêmes changements. Bon, maintenant, ces courants-là existent. Ça va être, proteste, conteste contre le fascisme, le nazisme et tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, en ce moment... il faut savoir que parfois, j'ai beaucoup d'amis. Enfin, j'ai partagé sur mon Facebook la lettre de Blanche Gardin, qui est vraiment dans le creux de la vague et qui est donc, comme je le disais, blacklistée et tout ça. Donc, on vit dans un monde où c'est vraiment difficile d'aller trouver de la bonne énergie parce qu'on est vraiment cerné par la merde. Et donc, il va falloir justement catalyser toute cette merde. Et quoi de mieux que de la prendre, de la bouffer et puis de l'extérioriser, de la chier en un bel étron en bronze. Et donc... Ces gens-là du 19e siècle, ils nous touchent parce qu'ils ont sorti, je pense, le meilleur de ce qu'ils avaient à sortir. Parce que pour moi, c'est...
Le meilleur du dramatique, peut-être.
Oui, du spleen, de la déprime. Ouais. Et ils sont quand même donc, sous Bonaparte. Eux, ils sont sous l'Empire. Mmh. C'est-à-dire que leurs dirigeants, c'est les plus infects, les plus infâmes. Enfin, est-ce que c'est plus infect que la pédocriminalité au cul de Beyrouth? Ou que la façon dont ils sont en train de se dépecer l'Europe, enfin j'en sais rien. En fait, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est
donc
que
c'est
pareil.
Donc en gros, tu insistes, tu lances cette initiative de courant artistique pour déposer aussi les colères, les injustices, les discriminations, les immigrations, les migrations, l'interculturalité, tout ça.
Ouais, la vieillesse et la mort. Je distribuerai des virus d'Alzheimer, comme ça quand on en aura marre, on en aura qu'à s'en mettre un, et comme ça on se souviendra que des belles choses à chaque fois qu'on se rencontre.
En parlant de belles choses, moi j'avais envie de proposer une petite musique du coup pendant notre artichaut.
Oui,
là,
absolument.
Comme ça après on peut revenir aussi l'esprit un petit peu plus réconforté, et pendant du coup cette petite histoire que tu nous as contée. Comme il y avait beaucoup de références au hashish, eh bien, j'ai trouvé une chanson de Luca Salam, Hashab Hashish.
Inch'Allah.
Sti qalet lil banat bilbesou fasatin. Oumi qalet lil banat ma yelabouch fi tin. خالة خالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح اشرب حشيش البنات بيلبسوا فساتين ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش ستاير كرانيش اوعي مرة تباتي برا وتتأخري في مرة اوعي للبواب يشوفك وما تتجوزيش ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش
C'était beau, c'était doux, c'était pour vous sur les ondes de Radio Diwa dans l'émission L'Artichaut.
Personnellement, j'adore L'Artichaut, cette émission qui parle d'art.
Alors pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas tellement question de faire l'apologie de la drogue, mais les animaux se droguent aussi et tout ça, c'est des plantes compagnons ou copines ou amis... très puissantes de l'homme qui ont été mis à notre disposition justement pour voir plus loin. Et du coup, je trouve que ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas même avoir ces expériences-là. Enfin, je trouve que les expériences au LSD, elles ont vraiment un caractère tellement incroyable et merveilleux que ça peut sortir n'importe qui aussi de la déprime en lui faisant voir finalement le monde tel qu'il est. Et pas tel qu'il est vu ou ressenti avec les sens qui nous ont été donnés. Les gens qui ont la chance d'avoir des sens très fins peuvent avoir vite des sensations fortes, mais les gens qui ne sont pas affinés ou qui sont très peu dans la nature ou qui se mettent très peu dans le berceau de la nature s'éloignent et se séparent. Et voilà, et c'est par là que le mal arrive, évidemment.
Alors, Parle-nous du bien qui arrive sur le territoire.
Je me suis motivée avec Vince pour refaire une troisième édition de Barnave aux artistes. Et du coup, on peut dire que ça y est, on lance le concept et qu'on va essayer de s'y tenir chaque été. Donc, je me disais que c'était peut-être pas mal de faire le méga gros week-end festif 21-22 juin, qui est pris par la course de caisse à savon et la fête de la musique et le feu de la Saint-Jean. Et finalement, avec les amis artistes et tout ça, on a décidé de faire traîner, donc de faire le week-end d'après. Comme ça, ça fait plus de week-ends de festif à Barnave. Et donc, Barnave aux artistes aura lieu le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin. Du coup, pour cette troisième édition, on est drôlement contents parce qu'on a des nouvelles maisons qui s'ouvrent. Alors, par exemple, il y a Véronique Mosaïque qui va enfin ouvrir son atelier de l'Hôtel du Nord, maison qu'ils sont en train de restaurer patiemment depuis déjà deux, voire peut-être même trois années. Et donc, cet été, ça s'ouvre. On a Chris qui va nous ouvrir son jardin. On va avoir aussi peut-être d'autres maisons. Enfin, je veux garder le,
oui,
je garde un peu le secret.
Que
toujours pour dire que voilà, on a
tu
de
recrutes.
L'espace. C'est-à-dire oui, on a de l'espace, on a de l'espace. Alors voilà, c'est ça, c'est Barna vos artistes. Donc,
avis à tous les artistes du Diwa.
Absolument, avis à tous les artistes du Diwa qui veulent nous rejoindre et exposer avec nous dans les granges, les jardins, les petits coins sous les frondaisons. On appelle aussi tout ce qui est fanfare, petit artiste de la rue, joie de vivre, jongleur, baladin. Troubadour, poète, évidemment tous les gens qui sont prêts à peindre aussi au chevalet la magnifique calade de Barnave ou le village ou des vues. Enfin voilà, on voudrait profiter finalement de cette affreuse morosité creux de la vague, et je ne dresse pas mon bras bien sûr, pour faire contre-pouvoir, contre-pouvoir. Et au départ, ce concept qu'on a eu avec Vince de faire des fêtes dans des villages en rajoutant avec le nom aux artistes, et c'est notre premier acte militant. C'est-à-dire que je trouve que franchement, on ne laisse pas assez la place et l'espace aux artistes d'un point de vue de culture, d'un point de vue social et de partage, mais aussi d'un point de vue de politique. Parce que finalement, les artistes, c'est les derniers à bien vouloir sortir gratuitement pour montrer leur art et partager et faire vibrer les gens. Parce que c'est ça, on le sait quand on est artiste, que notre mission, c'est d'aller balancer, semer de l'amour et des graines de joie partout. Donc, on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est comme Roger Rabbit, on rase gratis demain, quoi. Donc, du coup, c'est prendre un village par les artistes et de montrer le temps d'un week-end comment ça pourrait être chouette si ce concept-là se déployait dans tous les villages, parce qu'il y a de l'art partout et puis il y a de l'amour partout, et que c'est ces valeurs-là qu'il faut mettre en avant. Donc je vous invite à nous rejoindre. Donc je vais donner mes coordonnées, donc je vais donner mon téléphone direct, mais comme je réponds pas au téléphone que je ne connais pas, vous me laissez un message. Et avec en me disant ce que vous faites, et moi je vous rappellerai très vite. Donc c'est carotte. Alors attention, mon numéro de téléphone 06 95 32 35 22. Très facile à retenir. Et donc vous me laissez le petit message bien sympa. Vous me dites quel est votre médium préféré. Vous me dites puis de toute façon je vous rappellerai, parce que j'essaye de rencontrer tout le monde avec Vince, de voir tout le monde avant le festival pour trouver à chacun son petit écrin dans Barnave.
Trop chouette.
Alors, je rappelle quand même que c'est un festival gratuit. C'est pour ça que les gens qui font de la musique, n'ayez pas des exigences énormes, parce que ça sera au chapeau. On tient vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'entrée à ce festival et que ça reste une charmante déambulation à travers les belles pierres, et de voir des belles œuvres et des bonnes bouilles d'artistes généreux et chaleureux derrière les maisons. C'est de ça, je pense, qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a envie de parler. C'est de ça qu'on a envie de partager, du beau à gauche, du beau à droite, du beau au milieu, du beau en haut, du beau en bas, du beau partout autour de nous. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et puis du coup, je crois que la semaine prochaine, tu avais envie qu'on parle encore d'amour, de deux personnages masculins.
Mais oui,
tu peux nous donner rendez-vous avec cet épisode-là.
Oui, rendez-vous donc la semaine prochaine avec le duo de Gilbert et Georges. Et là, c'est des grands fucks dans ta gueule.
Même heure, même ambiance. On adore tout ça. Des bisous et on vous laisse avec un dernier titre musical. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Bisous, mes chéris.
Oh, I'm so rich right now.
That's the riches.
Oh, so rich to be alive right now. My people, can you open up your eyes and see? You're so rich, you got life, can't you see?
Some say, well, I'm so rich. So rich right now. Lord, well, I'm so rich. I could shout out, wow. But me love, so rich. So rich right now. Lord, well, I'm so rich. I could shout out, wow. You are. For me so rich in a joys like every day. With a smile on my face, coffee that to me pray. Me so rich with me friends, then me never we way. And
the Almighty, you know, say me pray. Because me rich in the music, you hear it a play. Me say rich with selectors, watch them DJ. Rich with the audience, I scream and I say, one no Scaramucci, Ragamuffin DJ. So rich, so rich right now. Lord, well I'm so rich, I could shout out wow. But me look, for when me talk about rich, I know the diamond and gold. This not the Eden where sell them soul. This not the wicked where all so cold. This not the banks them where in control. So rich right now. Lord, well I'm so rich, I could shout out wow. But me look, well I'm so rich. Rich in a life, if you hear what me say. Me have a son grown up darker than the other day. And the Almighty in my breast me said way. I'm so rich like every day. When you see me concert and the music I play, and the people them a jump and a shout and I say, Scaramucci spread the message all the way. I make the world hear what you've got to say. So rich, we are all so rich. Lots of so rich. We are all so rich. You know why? Because we're rich in the morning, rich in the day, rich in the night when we sleep, said way. When we wake up to the Father, you feel pray. Because of the riches of a new day, so rich. So rich right now. Bangling, so rich. I could shout out, wow. What me say? Because me rich in a joy's like every day. With a smile on me face, so feel that to me pray. Me say rich in me friends, them in every way. And I to the Almighty, you know, say me pray. So rich.
T'es sur RDWA et on t'aime, ouais.